Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive et par le mont Sinin et par cette cité sûre très certainement nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce lundi 31 mai 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal d'information, suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le Hamas s'est engagé dans une guerre contre Israël pour lui prouver que Rots n'était pas seul, a déclaré Yahya Sinwar, chef du mouvement Hamas. La police nigériane a déclaré qu'un groupe d'hommes armés avait tué une personne et enlevé plusieurs écoliers au cours d'une attaque commise dans l'état de Niger, dans le centre nord du pays, et une forte explosion a secoué une méga. Et une forte explosion a secoué une méga raffinerie en Virginie aux États-Unis. C'était les principaux titres. En voici le journal. C'est 1 million de barils émis de pétrole iranien. Alors que le dialogue nucléaire BISA-VN se trouve dans l'impasse et que la perspective d'un accord USA-Iran s'éloigne très rapidement, certaines informations font état d'une curieuse démarche américaine qui, toute raison gardée, a l'air d'un guet-apens. Pour la première fois depuis 43 ans, les États-Unis achètent du pétrole iranien tout en donnant son frais au gouvernement indonésien pour qu'il relâche le pétrole iranien pris en otage. Que se passe-t-il? Certains observateurs y voient l'écho d'une réelle crainte, celle de l'alliance irréversible entre la Chine et l'Iran. L'enjeu est majeur et vu la nette montée en puissance de la résistance en Asie de l'Ouest, les États-Unis risquent gros surtout que Pékin continue de se rapprocher de l'Iran et de la résistance, adoptant même une rhétorique anti-israélienne. Le pétrolier Ors, appartenant à la flotte de la Compagnie nationale iranienne des pétroliers, saisie dans les eaux indonésiennes depuis le 24 janvier 2021, a été libéré vendredi 29 mai. Après avoir passé avec succès le procès judiciaire, le navire a été libéré au bout de 125 jours grâce au plein soutien de hautes autorités iraniennes, au soutien et l'assistance consulaire du ministère iranien des Affaires étrangères et à la coopération de l'assistance spéciale du ministère iranien des Affaires étrangères. Le navire a maintenant repris sa mission et retournera en Iran après l'achèvement de sa mission. C'est dans ce contexte que le département américain de l'énergie a annoncé le premier achat du pétrole iranien depuis 30 ans. Il s'agit de 1033 millions de barils, un humble volume par rapport au premier fournisseur d'or noir aux Américains. Plus tôt en octobre 2020, les États-Unis ont importé également environ 36 000 barils de brut iranien par jour. L'Agence d'information sur l'énergie du département américain de l'énergie n'a pas donné d'explication spécifique sur la manière dont les États-Unis, malgré les sanctions américaines contre Téhéran, ont acheté cette quantité de pétrole à l'Iran. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, est arrivé dimanche au Caire pour s'entretenir avec son homologue égyptien, Sameh Shoukry. Ashkenazi a tweeté avant sa rencontre qu'il s'agissait de la première visite officielle d'un ministre israélien des Affaires étrangères en 13 ans en Égypte. Le cessez-le-feu annoncé la semaine dernière entre le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas et Israël n'est mis en vigueur que dans la bande de Gaza et n'inclut pas les autres dossiers. Cela signifie que les sionistes peuvent à tout moment reprendre leurs actions hostiles à Rhodes. Mais la résistance a subordonné son aval au respect du cessez-le-feu à l'arrêt des exactions d'Israël dans la ville sainte. Le Hamas a averti que toute relance des exactions à Rhodes sera ripostée par la résistance palestinienne. Néanmoins, le dossier de Rhodes serait au menu des discussions des responsables israéliens et égyptiens. Après l'arrêt des combats, le vendredi 21 mai, plusieurs centaines de combattants du Hamas ont défilé en plein centre-ville de Gaza. Des dirigeants du Hamas étaient présents et le plus important d'entre eux a fait son apparition. Pour la première fois depuis l'offensive israélienne, Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, s'est montré en public pour saluer les familles des combattants tués dans la guerre et défier Israël. Le Hamas s'est engagé dans une guerre contre Israël pour lui prouver que Rhodes n'était pas seul, a déclaré Yahya Sinwar. Dans un entretien avec le site d'information West News, le chef du Hamas à Gaza a déclaré « Nous étions prêts à accepter un cessez-le-feu dès les premières heures après le début de la guerre et c'est ce que nous avons annoncé au premier, au deuxième et au troisième jour de la guerre aux médiateurs égyptiens et qataris ainsi qu'aux représentants des Nations Unies. Nous leur avons dit que nous étions prêts à mettre un terme au conflit immédiatement et sans aucune condition. Le seul message que nous voulions faire passer au régime d'occupants était que nous ne laisserions jamais seuls la mosquée Al-Aqsa et les Palestiniens du quartier de Sheikh Jarrah. Nous voulions prouver que nous ne permettions pas à Israël de poursuivre ses politiques illégales à Rhodes et en Cisjordanie, de confisquer les terres appartenant aux Palestiniens, d'assiéger Gaza et de commettre des actes racistes contre les Palestiniens. Yahya Sinwar a souligné que la guerre contre Israël et ses mesures discriminatoires visant les Palestiniens se poursuivaient. Les Palestiniens ne cherchent pas la guerre, mais cette guerre se poursuivra longtemps, car Israël a occupé nos terres, a privé du toit notre peuple et procède au massacre. Yahya Sinwar a déclaré que l'armée israélienne était dotée d'une importante quantité d'équipements militaires et qu'elle avait massacré les femmes et les enfants palestiniens. Les groupes de résistance disposent de simples armes et ils sont obligés de se défendre. Mais s'ils sont dotés d'armes de haute précision, ils ne prendront pour cible que les lieux militaires d'Israël. Il y a presque une semaine, Yahya Sinwar affirmait que les groupes de la résistance à Gaza étaient désormais capables de tirer en une minute des centaines de missiles d'une portée de 200 km. Suite à un point de presse mercredi, Sinwar a même défié l'entité sioniste en se rendant à son bureau à pied tout en parlant librement à des gens ordinaires sur sa route. Alors que les internautes en ont publié les photos sur les réseaux sociaux, le journal israélien Haaretz a reconnu que Yahya Sinwar était plus courageux que les dirigeants israéliens, dont Benjamin Netanyahu et Benny Gantz, respectivement Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de ce régime. Israël fait un lavage de cerveau depuis sa création. Sinwar est plus courageux et plus solidaire que Netanyahu et Gantz et bien meilleur en termes de la réalité morale de la guerre que ceux qui recourent à des moyens criminels, a écrit Haaretz dans un article signé Guidon Lévy. Le journal poursuit. Sinwar a passé 22 ans dans les prisons israéliennes. Il a bien appris l'hébreu en prison et révèle tout ce que nous n'entendons pas sortir de la bouche de nos autorités. Le chef du Hamas à Gaza a déclaré dans un discours que, contrairement au ministre israélien des Affaires militaires, il marcherait librement dans les rues à Gaza. « Je me déplace librement à Gaza et je les attends. Les menaces de l'ennemi sont vides et dépourvues de valeur et il le sait très bien », a affirmé Sinwar en allusion aux déclarations menaçantes du régime sioniste contre sa vie. Le président libanais Michel Aoun a affirmé vendredi que le Liban est impatient de renforcer les liens bilatéraux avec la Syrie dans tous les domaines, selon un communiqué de la présidence libanaise. M. Aoun a également confirmé les liens historiques profonds entre les deux pays. Ces propos ont été tenus dans une lettre envoyée au président syrien Bachar el-Assad pour le féliciter de sa victoire à l'élection présidentielle de 2021. Je vous félicite sincèrement à l'occasion de votre réélection en tant que président de la République arabe syrienne fraternelle, en espérant que les efforts se poursuivront dans la prochaine phase pour stabiliser votre pays et rétablir la cohésion entre toutes ces zones, a dit M. Aoun. Il a également souhaité le retour des Syriens déplacés dans leur patrie pour participer au développement de la Syrie. La police nigériane a déclaré dimanche qu'un groupe d'hommes armés avait tué une personne et enlevé plusieurs écoliers au cours d'une attaque commise dans l'état de Niger, dans le centre nord du pays. Adamu Ousmane, chef de la police de l'état de Niger, a déclaré que des écoliers avaient été enlevés lorsque des hommes armés non identifiés avaient attaqué l'école Salihu Tango Islamia de Teguina, une ville de la zone de gouvernement local de Rafi. Un grand nombre d'hommes armés circulant à moto ont pris d'assaut la ville dimanche après-midi, ouvrant le feu sans discernement et tuant un habitant au passage, a indiqué M. Ousmane. Il a cependant refusé de communiquer le nombre exact d'élèves enlevés lors de l'attaque. La presse locale a quant à elle affirmé que plus de 200 élèves de l'école auraient été enlevés par des hommes armés. Quelques heures après que le chef du Pentagone a menacé d'infliger une riposte offensive aux hackers qui mettraient les intérêts américains en danger, une forte explosion a secoué une méga raffinerie en Virginie. En termes d'incidents visant les sites sensibles ou encore des bases militaires, les États-Unis en sont déjà à leur 20e coup subi tout au long de l'année 2020. Les États-Unis ont connu des explosions suivies d'incendies inexpliqués sur quoi ils ont promis des enquêtes qui n'ont guère abouti. Le chef du Pentagone avait menacé samedi les parties hostiles d'une cyberguerre totale pour cause d'une fulgurante cyberoffensive qui a plongé 24 États US dans la pénurie d'essence, ayant frappé le fameux Colonial Pipeline, un énorme pipeline de quelque 9000 km reliant le golfe du Mexique à l'État de New York. Mais à l'évidence, la menace a eu l'effet inverse. Ce dimanche 30 mai, les pompiers luttaient contre un incendie à la raffinerie de pétrole Argonvas, Virginia, à Newval, Virginie occidentale. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Hezbollah, SOS d'Israël à la France. En pleine guerre entre le régime israélien et la résistance palestinienne, une attaque au missile et une attaque au drone ont été lancées depuis la Syrie et le Liban vers les territoires occupés. À un moment de la guerre, les Israéliens, qui se sentaient dans une impasse, ont évoqué l'idée d'une opération terrestre. Cependant, cette idée n'était pas quelque chose qui les intéressait vraiment en raison des exercices ratés qu'ils y ont vécus plusieurs fois. Par exemple, en 1973, les Égyptiens sont arrivés à repousser l'armée de terre israélienne en tuant un millier de soldats. C'est ainsi que tout le désert du Sinaï a été libéré. Malgré la vulnérabilité des forces terrestres israéliennes, les menaces de Tel Aviv sur le déclenchement d'une opération terrestre ne pouvaient pas être négligées. La résistance a donc décidé de mettre en garde le régime israélien contre une escalade de violence. Dans la foulée, le groupe de résistance Ahmed Jibril, opérant au Liban, a tiré quelques roquettes vers les territoires occupés, signe d'avertissement au régime de Tel Aviv. Cette attaque ne visait pas une cible particulière. Cet événement a largement préoccupé les Israéliens qui ont rapidement contacté le président français Emmanuel Macron pour lui demander de s'assurer que le Hezbollah ne veuille pas entrer en guerre. Suite à ce contact, Paris s'est entretenu avec le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah. Ce dernier a fourni une réponse qui n'était ni négative ni affirmative. « Nous ne pouvons pas avoir sous notre contrôle total les Palestiniens vivant au Liban. Nous ne pouvons pas faire une promesse de la part des Palestiniens du Liban. » le message caché derrière la réponse ambiguë de Saïd Hassan Nasrallah avait fait comprendre à la partie française que le Hezbollah pourrait passer à l'acte au cas où Israël intensifierait ses attaques. La France a été convaincue qu'il n'existait aucune garantie là-dessus. C'est exactement pour la même raison qu'un drone a été envoyé depuis le territoire syrien vers la Palestine occupée. Donner un sévère avertissement à Israël quant à toute escalade de violence. Inutile de savoir par quelle partie le drone a été envoyé. L'important est qu'il a été envoyé depuis le territoire syrien. Cette attaque a fait basculer Israël dans la panique d'une guerre élargie. Tel Aviv a refusé de riposter à cette attaque au drone pour la simple raison qu'il ne voulait pas une extension du conflit. C'était leur grande faille. Paniqués, les sionistes ont fait appel aux Égyptiens pour se sauver du conflit à l'aide d'un cessez-le-feu. Les Égyptiens, quant à eux, ont été obligés de changer de ton au profit des Palestiniens pour que ceux-ci acceptent la trêve. La prise de position d'Al-Azhar en faveur du Hamas était un fait sans précédent. Le cheikh Ahmed Mohamed El-Tayeb a déclaré « Nous soutenons le Hamas car le Hamas soutient nos valeurs sacrées ». Ahmed El-Tayeb a pris cette position lorsque les Palestiniens refusaient d'accepter un cessez-le-feu. Par ailleurs, le secrétaire général du djihad islamique de la Palestine a déclaré qu'au cas où le régime sioniste procéderait à l'assassinat des dirigeants de la résistance, Tel Aviv serait ratatiné par des missiles. Ziad al-Nakhala a souligné que le djihad islamique continuait de résister face au régime occupant et qu'il ne renoncerait pas à sa lutte jusqu'à ce que les occupants quittent les territoires palestiniens. Rots reste et restera la priorité des priorités des Palestiniens. Le récent conflit entre la résistance et le régime sioniste ne s'est pas encore terminé et les combattants palestiniens ont des armes à la main et se préparent à un nouveau rang d'attaques contre les cibles et les positions de l'ennemi. Ziad al-Nakhala a ajouté que le djihad islamique suivait de près les agissements de l'ennemi, surtout à Rots et dans le quartier de Sheikh Jarrah, et son respect envers le cessez-le-feu. Il a souligné que la résistance continuait de soutenir la nation palestinienne et ses valeurs sacrées.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce dimanche 30 mai 2021. Le président Bachar al-Assad a été réélu pour un quatrième mandat à la présidence syrienne. Selon les résultats officiels, M. Assad a obtenu 95,1% des voix lors de cette deuxième élection depuis le début de la guerre en Syrie. Un score meilleur que celui de la précédente présidentielle en 2014. Sur les 18,1 millions d'électeurs en Syrie à l'étranger, plus de 14,2 millions ont voté selon les chiffres officiels, soit un taux de participation de 76,64%. Et plus de 13,5 millions d'entre eux ont voté pour le président Assad. La République islamique d'Iran a félicité le président Assad pour sa victoire ferme à la présidentielle en Syrie et a estimé en effet que cette victoire ouvrait une étape, constituait une étape importante vers la paix dans ce pays. Le président russe Vladimir Poutine, lui aussi, a estimé que cette victoire confirmait la haute autorité politique du président syrien. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons revenir sur cette victoire importante du président Assad, ses répercussions sur la scène politique syrienne, mais aussi à l'échelle régionale, les défis qui attendent le président Assad, mais aussi les marges de manœuvre des opposants et de leurs supporters après cette victoire. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Bachar al-Assad a été réélu pour un quatrième mandat à la présidence syrienne avec 95,1% des suffrages. Monsieur Bachar al-Assad a reçu 13 540 860 voix, soit 95,1% du nombre valide de suffrages exprimés, a déclaré le président du Parlement syrien, Hamouda al-Sabar, lors d'une conférence de presse en soirée, jeudi 27 mai. Selon Sabar, 14,2 millions de personnes ont participé au scrutin sur les 18,1 millions appelés à voter, soit un taux de participation de 76,64%. Cette victoire permet à Bachar al-Assad de rester au pouvoir pendant 7 années supplémentaires. Merci à tous les Syriens pour leur grand sens du nationalisme et leur participation notable pour l'avenir des enfants et de la jeunesse syrienne. Démarrons demain notre campagne de travail pour bâtir l'espoir et construire la Syrie, est-il écrit sur la page Facebook de la campagne Assad. Pour ce scrutin, Bachar al-Assad faisait face à 2 candidats, l'ex-ministre et parlementaire Abdallah Saloum Abdallah et un membre de l'opposition, Mahmoud Marey. Ils ont remporté respectivement 1,5% et 3,3% des voix. Des milliers de partisans de Bachar al-Assad se sont rassemblés à Damas agitant des drapeaux syriens et des portraits du président scandant des slogans à sa gloire. Selon le site web militaire libanais South Front, les récentes frappes de drones n'ont pas empêché les livraisons d'armes à la Syrie. Le 27 mai, une cargaison d'armes est arrivée dans le gouvernorat syrien de Deir ez-Zor en provenance d'Irak, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, vitrine médiatique du MI6. La nouvelle cargaison d'armes était escortée par les unités de mobilisation populaire irakienne. La cargaison d'armes est arrivée en Syrie malgré une série de frappes qui ont récemment visé les frontières irako-syriennes. Israël et les États-Unis ont tous deux été pointés du doigt pour les récentes frappes survenues sur les frontières irako-syriennes. Ils s'efforcent d'arrêter les expéditions d'armes vers la Syrie depuis des années.
Au retour au plateau de l'émission du débat, merci de votre fidélité pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Damas avec Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique, et depuis Paris avec Madame Aïssa Hamidani, analyste franco-syrien des questions internationales. Madame Hamidani, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci de votre invitation. Merci à votre invité. Merci à toute l'équipe. Bonjour à toute l'équipe TV et vous-même et à tous les téléspectateurs.
Le temps fort de l'actualité régionale et peut-être internationale, la victoire du président Assad, sa réélection pour un quatrième mandat à la présidence syrienne. À travers cette réélection, Madame Hamidani, quel est le message du président et du peuple syrien, surtout à l'adresse de ceux qui, des groupes, des pays, des terroristes, des puissances qui ont cherché par tous les moyens possibles au cours des 10 dernières années à renverser le président légitime de la Syrie?
En réalité, après cette dizaine de feux, je dirais, où le peuple syrien a été en but à toutes les attaques, comme vous l'avez bien signalé, par terroristes interposés, des attaques visant à détruire l'infrastructure du pays, à affamer le peuple et à le mettre à genoux. Cette victoire est une victoire, est un couronnement de la victoire du peuple syrien. Dans tous ces combats, dans les combats donc face aux pays qui soutiennent les terroristes et qui s'ingéraient systématiquement et qui voulaient porter atteinte à la souveraineté de la Syrie, une victoire contre le terrorisme, une victoire contre ceux qui veulent aussi mettre le pays à genoux à travers des mesures affamatoires et qui vise à l'affamer, à la chauffer et à surtout le mettre complètement en fait, mettre l'économie aussi à plat Donc c'est une double victoire. Ça, c'est aussi sur le plan de la victoire. Un autre aspect de cette victoire, je dirais, c'est aussi une approbation totale, un vote sur la totalité de la politique, de la stratégie qui a été menée par le président Assad, une politique qui vise à défendre et à soutenir la souveraineté nationale, une politique qui a mobilisé l'ensemble du peuple, d'ailleurs dans son premier discours, ce qui est un discours très mobilisateur et très important aussi, qui vise à reconstruire avec nos propres moyens. C'est aussi une approbation totale de toute la politique d'alliance et stratégique qui a été menée pendant cette dizaine de feux, qui a permis effectivement de résister et de réussir. C'est aussi donc c'est presque un plébiscite qui lui demande de continuer dans la même voie et mener la Syrie vers la voie à nouveau de la reconstruction et puis du retour à une place de choix dans la politique de la région et dans la politique internationale. D'ailleurs, on voit déjà, d'ores et déjà, les résultats, non seulement au niveau des élections, mais au niveau aussi de la transformation des rapports de force par rapport à la Syrie. Des rapports de force, je dirais, où on voit le retour de certains pays qui étaient agresseurs de la Syrie, qui reviennent et voulant reconstruire des relations diplomatiques, réouvrir des ambassades, etc. Donc ça, c'est aussi un premier impact, je dirais, ou une première conséquence.
Merci, Madame Midani.
De cette victoire.
Merci pour ces précisions. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Damas Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour et merci d'être en ligne avec nous. Apparemment, nous avons un problème, un souci de liaison avec Maître Develet depuis Damas. Maître Develet, est-ce que vous nous entendez? Donc, nous allons continuer avec Madame Midani. Madame Midani, vous êtes avec nous, j'espère?
Oui.
Très bien.
Je suis là.
En attendant que notre liaison soit rétablie avec la Maître Develet. Madame Midani, quelles sont les priorités du président syrien pour ce quatrième mandat, mais aussi et surtout les défis qui l'attendent?
En effet, après 10 années de guerre, de destruction, etc., les défis sont très grands. Effectivement, au niveau déjà de la reconstruction, deux grands défis, je dirais. Le premier, c'est recouvrer en fait la souveraineté de l'État syrien et le contrôle sur l'ensemble des territoires syriens. Je voudrais rappeler quand même que Al Jazeera Souria elle est sous occupation américaine et turque, hein, et c'est la région la plus fertile, c'est le panier de la Syrie, c'est aussi la région qui contient les ressources pétrolières et gazières de la Syrie, mais aussi toute la région d'Idlib, qui est aussi une région très importante aussi pour la Syrie, qui est une région agricole avec une grande diversité agricole. Ce qui veut dire que ce sont des points clés pour l'économie syrienne et pour pouvoir se battre contre les mesures unilatérales appelées sanctions, qui sont imposées par l'Occident, par l'OTAN et les États-Unis contre la Syrie. En fait, donc, l'important, c'est de pouvoir récupérer toutes les richesses syriennes, d'une part, et puis d'autre part lutter à tous les niveaux contre pour le rétablissement pour enlever en fait tout ce qui est appelé sanction sur la Syrie, donc pour avoir la liberté de commercer, de travailler avec les autres pays du monde de manière tout à fait libre. Mais là-dessus, je peux dire qu'on peut aussi compter, la Syrie peut compter sur ses amis, elle peut compter sur ses alliés, la Syrie n'est pas seule dans ce combat. Donc, il est très important aussi de rappeler l'importance des amis, notamment toutes les relations stratégiques avec l'axe de la résistance, donc avec l'Iran, l'Irak, le Hezbollah, le Yémen, la résistance yéménite, la résistance palestinienne. Ça, c'est un point qui est très important. Bon, donc, la présence d'un pays comme l'Iran est très importante dans cette lutte aussi pour recouvrer l'ensemble, une certaine aisance ou lutter contre, je dirais, l'impact qui vise à affamer des sanctions, qui vise à affamer le peuple syrien. Ça, c'est un premier point. Et puis aussi, il y a les pays amis comme la Russie, la Chine, qui font partie aujourd'hui, je dirais, d'un axe mondial de lutte contre l'hégémonisme américain et contre cette domination, en fait, cette domination de l'axe du mal, je peux dire, contre tous les pays du monde. Je voudrais rappeler aussi qu'il y a des pays amis comme le Venezuela, le Cuba, et aussi.
Merci, Madame Médani.
Qui sont en plus au même type de mesures coercitives.
Merci infiniment. Nous avons à Maître Arnaud Develay depuis Damas. Maître Develay, bonjour. Allô?
Oui, bonjour, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. Vous m'entendez?
Oui, je vous entends, on vous entend. Maître Develay, merci d'être en ligne avec nous. Maître Develay, avant le scrutin même, les pays occidentaux avaient tenté de mettre en cause la légitimité, en effet, des élections en Syrie. Ceci étant dit, d'abord, vous êtes à Damas, dans quelle ambiance s'est déroulé le scrutin et puis quelle est l'importance du choix du peuple syrien dans les circonstances actuelles, non seulement en Syrie, mais aussi à l'échelle régionale?
Au niveau de l'ambiance, j'ai jamais vu une telle liesse. On a vraiment pu voir une communion entre un peuple et son président. On a aussi pu constater un esprit de défiance de la part du peuple syrien. Ils ne l'oublions pas. Après des décennies d'agression militaire, de terreur, de campagne de terreur systématique contre le pays, c'est qui pourrait affecter par des sanctions activées les unes après les autres. Et au sortir de la première année de l'application de la loi César, on aurait pu penser qu'il y aurait une forme de désœuvrement et assez le contraire. On a assisté vraiment à j'allais dire une levée de conflits, une espèce de pense, une communion véritablement dans toutes les grandes villes, dans toutes les villes de Paris moyenne, toujours la même ferveur, toujours le même engouement et surtout une espèce de unité quasi supernaturelle qu'on ne peut pas même concevoir pour un pays occidental. C'est un peuple rassemblé autour de son président, lequel a mené la barque depuis 10 ans, malgré tous les vents des marées. Et les résultats finaux de cette élection sont presque une constatation, si je puis dire, de cet esprit, de cet engouement et de cette symbiose entre un peuple, entre un peuple libre. Pour la situation ici. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie au niveau régional? Si on prend en compte l'importance fondamentale de la Syrie dans l'axe de la France, Bien sûr, c'est un développement tout à fait crucial. Pour que cela veut dire que l'axe de la résistance pourra au moins pendant les 16 prochaines années compter sur le soutien indéfectible du président Bachar el-Assad quant à la libération de la région de toute forme d'impérialisme et que, avec son expérience accumulée à travers toutes les années, et son instinct politique, c'est une très bonne nouvelle, non seulement pour la résistance palestinienne, mais aussi pour la résistance yéménite et pour le développement futur de cet espace eurasiatique que tout le monde attend de voir émerger dans les prochaines années.
Merci pour ces éclairages, Maître de Velay. Alors, donc, désormais, en effet, le message est majeur et clair aux États-Unis, à leurs partenaires, à leurs mercenaires, qu'il n'y a pas d'avenir, en effet, en Syrie sans le président Assad, qui s'impose désormais, bien sûr, qui s'impose depuis une dizaine d'années comme le président de la résistance et depuis justement sa réélection, le président de l'espoir pour l'avenir de la Syrie. Ceci étant dit, quelles sont les marges de manœuvre des pays occidentaux face à ce développement crucial comme vous avez décrit à juste titre d'ailleurs?
Écoutez, je pense que malheureusement, nous sommes en présence de dirigeants occidentaux qui ont non seulement perdu tout leur boussole morale, mais qui ne sont même pas, si je puis dire, de bon sens politique. Le bon sens politique serait de constater et d'apprendre qu'ils ont échoué dans leur plan et d'essayer petit à petit réparer ce qui peut être encore réparé. Mais vous savez comment c'est en politique, quand il y a une volonté politique, il y a toujours une possibilité, mais en l'état actuel des choses, il semblerait plutôt que la stratégie des Occidentaux et de leurs alliés dans la région soit très positive la situation sanitaire et essayer d'isoler les différentes composantes de l'axe de la résistance avec pour objectif de les gérer, si je puis dire, de manière séparée des uns après les autres, en prenant en compte, bien sûr, les différentes possibilités au sein des domaines proposés. Donc je pense qu'il faut rester plus que jamais vigilant parce que cette classe dirigeante occidentale n'a pas l'intention d'accepter la défaite. Ils sont tous ruinés et ils sont tous plus ou moins dans sous l'influence des groupes supranationaux qui entendent bien, je veux dire, imposer leur pion sur la région. Donc, il faudra regarder bien la situation du côté plus grand. Il se passe beaucoup de choses un peu inquiétantes qui sont probablement l'objet d'une émission future. Mais aussi l'Irak, où on a pu voir ces derniers jours des provocations à l'encontre des Hachabi. Et bien sûr, dans le contexte de la relation avec l'Iran, plus précisément avec l'accord sur le nucléaire, on peut déjà constater que à l'horizon de l'élection présidentielle en République avec l'Iran, il va certainement y avoir une évolution notable qui porterait probablement une augmentation des tensions. Donc, il faut garder vraiment au niveau régional un peu de coopération parce que c'est lié. Et le destin de la Syrie est intimement lié au destin des autres pays d'opération. Donc, c'est dans cette perspective qu'il faut constater les choses, prendre en compte les développements divers et variés et rester raisonnable quant au fait que tout reste à faire et que l'Occident n'est pas prêt de rendre les armes, si je puis dire.
Maître Arnaud de Velay, juriste international et analyste politique, et depuis Damas, Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales depuis Paris, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
des merveilles. Des merveilles.
L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. Promenade est prévue cette semaine aussi dans la belle ville d'Isfahan avec tous ses chefs-d'œuvre, monuments et arts sophistiqués. Isfahan, dont l'âge d'or remonte au règne de Shah Abbas avec surtout ses importantes réalisations d'art religieux. Le développement économique de la Perse sous le règne des Safavides était naturellement lié à une restructuration du pays. La grande route des caravanes reliait la Chine à l'Occident. Des ponts et des barrages ont été édifiés qui non seulement sont remarquables du point de vue architectural ou artistique, mais également par les étonnantes techniques utilisées. Nous entendons vous présenter cette semaine les grands ponts d'Ispahan. Nous allons tout d'abord vous parler de la rivière Zayanderut, sur laquelle sont construits ces magnifiques ponts qui portent les noms de Siosepol ou Alaverdihan, Khaju et Shahristan. Restez donc avec nous. La chaîne des hautes et jeunes montagnes du Zagros, avec ses hauts et splendides sommets, ses rochers et falaises abruptes et ses mystérieuses vallées, retient une grande partie des pluies provenant des nuages venus de la Méditerranée et de l'océan Atlantique. De ces pluies naissent des rivières et des fleuves, parmi lesquels on peut citer la rivière Zayanderut. Cette rivière, qui prend sa source dans la montagne Zartku-Bakhtiari, s'élargit en cours de route avec l'eau des rivières et ruisseaux saisonniers qui sillonnent la chaîne du Zagros. Elle traverse ensuite un territoire au climat sec qu'elle irrigue pour se jeter finalement dans le marais Gavruni. La région montagneuse du Zagros est une région difficile d'accès, enclavée par les montagnes de ce massif et ses vallées étroites. Dès l'automne, les routes disparaissent sous la neige et restent impraticables jusqu'au printemps. L'épaisseur de la neige atteint parfois les 7 mètres. Cette neige, qui fond au printemps, alimente les rivières de la montagne. La montagne Zartku est le lieu de séjour d'été des tribus Bakhtiari. Le Zayanderut, qui signifie littéralement « la fleuve fertile », prend sa source dans cette montagne, qu'il dévale pour traverser ensuite la province de Chaharmahol Bakhtiari, dont il irrigue les champs, fermes, rizières, jardins et bois pour arriver à Ispahan. Après cette grande ville, dont il est le cœur, il traverse la plaine pour arriver à la dernière ville bâtie sur son cours, Varzane. Cette rivière se jette finalement dans le marais Gavruni. Environ 20 km séparent la ville de Varzane du marais dont les alentours sont inhabités. Dans les textes anciens, Zayanderut signifie « la rivière vivante ». Elle est l'une des plus importantes rivières d'Iran et la 16e rivière du pays en termes de débit. Elle est surtout célèbre en raison des ponts historiques qui l'enjambent, tels que les ponts Siosepol, Khaju et Shahristan. Parmi les villes que le Zayanderut traverse, on peut citer Shadegan, Bagh Bahadoran, Zarin Shahr, Ispahan et Varzane. Un barrage a été bâti sur cette rivière, entraînant ainsi la formation d'un lac artificiel. 11 ponts enjambent le Zayan Derout, dont 6 sont récents. Les Iraniens aiment à y venir flâner à la tombée de la nuit lorsque les ponts s'illuminent. Ces promenades sur les berges se font en famille ou seules. Parmi les ponts historiques et anciens, on peut évoquer le pont Siosepol, appelé aussi le pont Alaverdikhan. Ordonné par le Shah Abbas Ier, il fut édifié en 1629 par le général Alaverdikhan, favori de Shah Abbas Ier, afin de relier les deux parties de la rue Charbagh et faire office de barrage. Construit sur la rivière qui donne la vie au début du XVIIe siècle, ce pont qui mesure 300 mètres de long et 14 mètres de largeur est composé de 2 étages d'arches. Au niveau de l'eau, le pont possède 33 arches qui lui donnent son nom de Siosepol, alors que la rangée du dessus, la plus petite, offrait un passage au bétail et aux piétons. L'ouvrage possède dans ses passages une magnifique maison d'été. La promenade sur le pont est conseillée le soir, au moment où le pont est illuminé. Le pont Siosepol comprend 2 niveaux. Le plus bas, avec des écluses, régule le niveau du fleuve. On distingue encore, par endroits, les peintures et les céramiques d'origine, ainsi que les vestiges de bancs de pierre, aménagés pour permettre aux chars d'admirer le paysage. Le pavillon construit au centre lui était réservé. Le pont de 300 mètres de long est constitué de 2 étages d'arches qui rythment l'architecture visuellement. Au niveau de l'eau, s'alignent 33 arches. La deuxième rangée d'arches, plus petite, se trouve au-dessus. À ce niveau, un chemin permettait au bétail et aux charrettes de passer et de chaque côté, il y avait un passage pour les piétons. Le pont Siosepol sert aussi de barrage. De chaque côté, un passage plus large permet à la rivière de s'écouler. Au-dessus de ces passages se trouve une jolie maison dotée de pur style oriental. L'autre pont célèbre d'Ispahan est le pont Khadju. Le pont Khadju fut construit en 1681 sous le règne de Shah Abbas II. Il est ainsi nommé car il relie la région de Khadju au sud en franchissant la rivière Zayan Derout. Le pont surplombe la rivière Zayan Derout. Il est long de 133 mètres et large de 12 mètres. Le pont Khadju, dont le nom est tiré du quartier où il se situe, se trouve à l'est du pont Siosepol, construit sous Shah Abbas Ier. Le pont Khadju fut construit sur les ruines d'un pont plus ancien qui avait été construit à l'époque de la dynastie des Timourides. Le pont Khadju sert également de barrage de carrefour. Il est l'un des ponts les plus beaux et les plus pittoresques du monde. Au milieu du pont, il y a plusieurs chambres décorées de peintures traditionnelles iraniennes. Ces pièces avaient été construites pour des princes safavides qui s'y installaient pour admirer les paysages de la rivière et leur magnifique capitale. En effet, sa sophistication architecturale ainsi que ses ornements extrêmement raffinés font distinguer le pont Khadju de l'autre pont historique de l'époque des safavides, à savoir Siosepol. Depuis des siècles, les visiteurs et les voyageurs qui viennent à Ispahan ne manquent pas de visiter ce pont qui constitue, sans exagération, l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture iranienne de la période islamique. Le pont Khadju présente beaucoup de similitudes avec son voisin, le Siosepol, construit 50 ans auparavant. Comme lui, il comporte 2 étages de circulation. En un bond, il retient l'eau qui s'accumule jusqu'à une hauteur de 2 mètres. 21 canons d'irrigation répartissent cette eau dans les espaces avoisinants. En aval, l'eau dévale plusieurs larges escaliers. Des niches dans l'épaisseur des murs invitent au repos ou aux rencontres dans la fraîcheur. Au centre, un pavillon octogonal accueille aujourd'hui une galerie d'art. La situation exceptionnelle du pont a permis aux constructeurs de travailler uniquement à la beauté de l'ouvrage. Son élégance fonctionnelle a également une dimension poétique, témoin typique de la force créatrice de la Perse qui savait allier technique et art de façon magistrale à une époque où déjà dans le monde islamique, on assistait à une dégénérescence architecturale. Chers auditeurs, nous voici au terme de cette émission. La semaine prochaine, nous continuerons notre randonnée dans la belle ville d'Ispahan. Soyez donc nombreux à nous y rejoindre et à nous y accompagner. Passez une bonne semaine. Thank you.